Nous allons donc reprendre la journée par une table ronde intitulée « Quel avenir pour le futur ?» qui sera animée par Sylvain Bourmeau, qui est journaliste à Mediapart, et à laquelle nous accueillons Bernard Cazes, qui est prospectiviste, et Christian de Pertuis, qui est professeur en économie. Cette table ronde était prévue au départ avec 4 personnes. Malheureusement, Jérôme Bindet, qui est directeur de la division de la prospective à l'UNESCO, et François Hacher ont annulé leur participation au dernier moment pour des raisons de santé. Donc ils ne pourront pas participer. Par contre, Jérôme Bindet nous avait envoyé un texte pour présenter malgré tout son propos, les idées qu'il souhaitait exposer. Donc on va commencer la table ronde par une lecture du texte qu'il nous a fait parvenir. Et donc c'est ce que Sylvain Bourmeau va faire. Merci.
Bien, merci. Oui, donc on est, ceux qui vont prendre la parole plus que moi sont deux fois moins nombreux que prévu, sauf que, comme on vient de vous le dire, je dispose d'un texte de Jérôme Bindet qui était donc prévu et que je me propose de vous lire, même si évidemment c'est moins vivant que lorsque les intervenants sont là, mais je trouve que c'est mieux de commencer par là, puisque éventuellement les deux participants qui sont là pourront rebondir sur ce que Jérôme Bindet avait envoyé par écrit plutôt que de procéder en sens inverse. Donc je m'excuse par avance, ce ne sera pas trop long, ce n'est pas un texte très long, c'est la réponse à 3 questions en fait que Jérôme Bindet, donc, qui est directeur de la division de la prospective à l'UNESCO, a envoyé. Première question, la technologie aujourd'hui vous semble-t-elle être encore une source de rêve et d'inspiration ? Les technologies font-elles encore rêver ? Certains diront, dans nos sociétés saturées d'artifices et d'artefacts, que le rêve technophile a tourné au cauchemar. Des accidents nucléaires ou des dommages collatéraux de la guerre chirurgicale à la société de surveillance technologique généralisée, à l'homme prothèse ou aux peurs suscitées par la convergence entre génétique, nanotechnologie et robotique, presque toutes les angoisses de la science-fiction sont devenues réalité ou sont sur le point de le devenir. Mais on pourrait aussi bien pointer les pratiques nouvelles qu'inspirent les technologies, comme la rédaction de romans sur téléphone portable ou toute autre forme de cyber-art, pour soutenir que la technique est toujours une source d'inspiration majeure. Notre époque, en fait, n'est ni celle du grand rejet, ni celle de la fascination, elle est plutôt celle du désenchantement, car si les technologies nous surprennent encore parfois, elles ne nous étonnent plus guère. C'est cette perte de fascination, proche de l'oubli de l'outil évoqué par Heidegger, qui nous sépare des futuristes. Pour eux, les technologies avaient cessé d'être des moyens aux effets plus ou moins pervers pour devenir des lieux d'intensification de l'expérience sous toutes ses formes et de sa cristallisation dans tous les arts, qu'il s'agisse d'écriture, de peinture, de musique ou même de cuisine. Si cette ouverture esthétique aux phénomènes techniques définit le futurisme, alors je doute que nous soyons encore futuristes. Mais le foisonnement contemporain des dynamiques technologiques m'incline à penser que des mouvements artistiques pourraient très bien réactiver cette attitude du futurisme. Deuxième question et réponse de Jérôme Bindet. L'immédiateté, la vitesse, la glorification du futur peuvent-elles être des valeurs aujourd'hui comme il y a un siècle ? Vitesse et immédiateté sont toujours, sinon des valeurs, au moins des traits d'époque, mais qui ont perdu tout lien avec la glorification du futur. Pour glorifier, il faut des rêves, de la gloire, des fantasmes, il faut des valeurs consistantes et solides. Or, nous ne pouvons plus fantasmer l'immédiateté et la vitesse, car nos sociétés souffrent d'un dérèglement de leur rapport au temps. Loin de nous libérer du temps des traditions, de la chronocratie technologique, précision des horloges atomiques, communication planétaire quasi instantanée, la chronocratie technologique donc nous a repliés sur un présent exclusif et livré à la tyrannie de l'urgence. La vitesse et l'immédiateté ont été colonisées par l'urgence au point d'amputer notre sens du futur. Le mot est brutal, mais il y a dans l'urgence une brutalité qui n'est pas étrangère à la violence et à la guerre qui fascinèrent nombre de futuristes. Cependant, ne confondons pas la technophilie souvent non critique du futurisme historique avec l'attitude futuriste d'ouverture que j'ai évoquée plus haut et qui est d'abord une impatience contre l'indifférence au monde dans lequel on vit actuellement. Être futuriste demanderait aujourd'hui de rompre avec l'emprise de l'urgence et de s'engager sur la voie d'une éthique du futur qui lie la pensée et l'action dans l'horizon du long terme. Mais s'il fallait reconstruire des valeurs, ce serait plutôt celle de lenteur, de médiateté, de temps long, toute notion diamétralement opposée au futurisme italien historique. Avec cette ralentie, pour citer Michaud, ou le slow food, on tâte le pouls des choses, mais on est bien loin de Marinetti. Troisième et dernière question. En 2008, un nouveau futurisme est-il possible, ou tout au moins une vision ouverte de l'avenir? Sur quelle conception du temps ou du changement l'appuyer? Plus qu'un mouvement historique, le futurisme est une attitude, un potentiel. Il peut donc être réactualisé, mais en conjuguant le futur dans une grammaire du temps profondément renouvelée depuis les premières heures du XXe siècle. Si, depuis les sciences et les technologies, nous ont appris quelque chose du temps, c'est que, suivant Ilya Prigogine, le temps n'a rien de linéaire ni de déterministe. Notre temps n'est plus celui péremptoire des avant-gardes artistiques, scientifiques et politiques. Notre temps est fondamentalement incertain. Il est celui des futurs possibles. Si le futur se dit aujourd'hui au pluriel, il y en ira sans doute de même du futurisme, des futurismes donc, et qui se déploieront à la manière de réseaux plus profondément mondiaux que ceux du premier futurisme. Reste à savoir quelles technologies et quels futurs seront rêvés. Un temps et des changements plus pacifiques, je l'espère, que ceux dont rêvaient les futuristes, eux dont beaucoup croyaient, comme Marinetti, que la guerre est la seule hygiène du monde. Voilà donc pour les trois questions-réponses de Jérôme Bindet, donc qui ne peut pas être parmi nous, que je vous ai lues pour ouvrir en quelque sorte la discussion autour de ce thème, quel avenir pour le futur, sachant que cette discussion évidemment s'insère, et on l'a compris en lisant les réponses de Jérôme Bindet, dans cette perspective de rapport historique à ce mouvement qu'est le futurisme, évidemment lié à l'exposition qui démarre ici au Centre Pompidou. Peut-on commencer avec vous, Christian de Pertuis, que cette discussion, nous l'avons, vous êtes professeur d'économie, nous l'avons dans un contexte très particulier qui est celui de cette crise financière dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques jours et qui a fait souligner à certains un certain nombre de choses de notre rapport au temps et de la façon dont il avait changé et que souligne Jérôme Bindet dans son texte. Un rapport au temps qui a changé évidemment du fait d'un certain nombre de transformations technologique, du rôle croissant de l'informatique, bien évidemment, des développements de la capacité de stockage des informations et donc de notre rapport au passé, à la mémoire, mais aussi, évidemment, au plan de l'économie, au plan de l'économie financière, tout particulièrement, puisqu'on a le sentiment d'être livré dans ce jeu-là à un futur, mais un futur extrêmement précis et restreint, un futur quasi immédiat, puisque à ce propos, et je citerai Jacques Derrida qui peu de temps avant de mourir avait donné, j'en avais recueilli un, quelques entretiens sur lesquels il se posait ces questions, un futur qui se traduit au fond en économie par ce qu'on appelle le court-termisme. On a l'impression qu'on est désormais livré à un système économique qui est orienté certes vers le futur, mais un futur à très court terme, parfois quelques jours, s'agissant des placements financiers les plus risqués, ceux qui précisément sont peut-être en cause aujourd'hui. Alors, comment un économiste voit-il ces transformations, Christian de Pertuis?
Bien, alors, d'abord, moi, je voudrais vous dire que depuis 4 ans, la totalité de mon activité de recherche et mon activité professionnelle consiste à travailler sur un point tout à fait particulier qui s'appelle le changement climatique, et plus particulièrement les instruments économiques liés au changement climatique, et notamment les marchés de permis d'émission, les protocoles de Kyoto, ces choses-là, si vous voulez. Bon. Il y a 3 ans, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « La finance autrement ». Et il y a 4 ans, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « La génération future a-t-elle un avenir ?», qui est presque le titre. Donc moi, je suis un petit économiste dans mon coin qui est absolument convaincu que la réhabilitation du long terme et la réhabilitation du très long terme est quelque chose d'absolument indispensable au fonctionnement des grands outils économiques et des grands marchés financiers. Si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Et je crois que ce qu'on observe depuis, alors vous avez dit quelques jours, bon, malheureusement, je crois que ça dure quand même depuis un peu plus que quelques jours. Hein, c'est Lehman Brothers a quand même fait faillite il y a maintenant plus d'un mois, si vous voulez. Bon. Et la crise des subprimes aux États-Unis, elle a démarré il y a quand même maintenant, de façon explicite, un an et demi, si vous voulez. Bon. Donc, ce qu'on voit clairement aujourd'hui, c'est que une certaine forme d'organisation des marchés non régulés, non, alors qu'est-ce que ça veut dire non régulé? Ça ne veut pas dire que l'État doit tout faire, mais ça veut dire que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est une forme de démission des autorités publiques par rapport au marché. Et alors, bon, nous, on a un président qui dit qu'il faut couper des têtes. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais pour moi, la démission des autorités publiques face au marché, elle a démarré le jour où les banques centrales ont dit à des acteurs comme Goldman Sachs, comme les grands acteurs de la finance de marché, comme on dit, ce n'est plus nous, l'autorité publique, qui allons vous fixer les règles de gestion du risque, mais c'est vous-même qui allez faire vos modèles de risque. Et nous, pauvres autorités publiques, on va... Donc moi, je crois que fondamentalement, ce qu'on vit aujourd'hui dans la crise financière, un, c'est la fin d'une certaine forme de développement du capitalisme, hein, développement qui est une forme assez pathologique hein, du capitalisme, dans lequel on voit que la finance prend une ampleur tout à fait aberrante. Hein, si vous regardez, par exemple, aux États-Unis sur les cinq dernières années, vous voyez que à peu près la moitié de l'accroissement du taux de profit aux États-Unis, c'est uniquement le secteur financier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Des gars, on en parlait tout à l'heure, c'est des jeunes traders qui, à 25 ans, captent des rentes considérables. Et vous voyez bien quelque chose de malade. Donc je crois que ce qu'on vit autour de nous, ça va se passer effectivement dans des formes assez dramatiques, mais c'est bien la fin d'une certaine forme de marchés qui sont, pour moi, fondamentalement, des marchés dans lesquels ce n'est pas les marchés en tant que tels qui sont responsables, c'est la démission des autorités publiques par rapport au marché. Et je pense que fondamentalement, la reconstruction d'une économie beaucoup plus tournée vers le futur, on va dire, beaucoup plus de progrès, implique qu'il y ait un nouvel équilibre entre ce qu'on appelle les autorités publiques, ça ne veut pas dire uniquement les États nationaux, parce que beaucoup de questions aujourd'hui ne sont plus traitable au niveau national. Ça implique aussi des autorités publiques multinationales. Bon, nous, on a la chance d'être en Europe dans un ensemble de 27 pays qui forment la communauté européenne. Et puis, évidemment, l'autorité publique multinationale via des organismes comme l'ONU. Et le domaine dans lequel je travaille, dont je vous parlerai peut-être même un peu plus tard, le changement climatique, vous voyez que il est absolument inutile de traiter la question du changement climatique sur le plan économique sans se situer immédiatement au niveau global. C'est la raison pour laquelle on a démarré l'action économique contre le changement climatique par le protocole de Kyoto, la Convention cadre sur le changement climatique, dans des modes d'organisation et de gestion qui sont directement branchés à une communauté internationale. Et la grande difficulté aujourd'hui qu'on voit, hein, dans la négociation sur le climat, vous allez le voir à la fin de l'année de la conférence de Poznan, l'année prochaine à la conférence de Copenhague, c'est que précisément les marchés, les entreprises, le monde économique est vraiment très, très fortement mondialisé. Ça se voit, on en a une vision claire dans l'industrie, mais il faut savoir qu'aujourd'hui les services sont très mondialisés. Vous avez parlé des flux d'informations. Les flux d'informations circulent sans coût aujourd'hui, sans coût. Ça coûte pas plus cher d'avoir son information sur son ordinateur qui est au premier étage ici ou de l'autre côté de la Terre. Bon. Donc cette économie était totalement mondialisée et les formes, les modalités de l'organisation de l'autorité publique sont restées à des niveaux nationaux qui sont complètement déconnectés. Donc je crois que c'est en grande partie ça qui va jouer dans les mois, dans les années qui viennent sur le plan économique, c'est comment comment retrouver un équilibre différent entre des autorités publiques et puis des marchés et des forces économiques qui sont très mondialisées et qui très souvent retournent au court-termisme un peu pathologique.
Merci Christian de Pertuis. On reviendra tout à l'heure sur ce que vous évoquiez, à savoir cette temporalité à beaucoup plus long terme et la manière dont vous travaillez sur ces questions de changement climatique du point de vue de l'économie. Mais je voudrais donner la parole à Bernard Caz, qui est prospectiviste, avant, en vous posant une question, Monsieur Caz. Au fond, j'ai le sentiment, mais peut-être je me trompe, que par rapport à il y a encore une trentaine d'années, 25 ans, l'horizon futur qui intéresse principalement, je dirais, les prospectivistes, l'horizon futur qui était celui, par exemple, de la planification entendue comme l'une des responsabilités des pouvoirs publics et qui, au moment de la formation des premiers gouvernements de la gauche au pouvoir en 81, avait encore droit à un ministère. Cet horizon a eu tendance à disparaître à mesure que, d'une part, nous entrions dans ce qu'un historien comme François Hartog a pu appeler le présentisme, c'est-à-dire une période obsédée littéralement par le présent et qui vit au présent. Je ne développe pas, mais les thèses de François Hartog sur ce sujet me semblent extrêmement convaincantes. Mais il faudrait ajouter à cela aussi une autre obsession pour le passé cette fois, ou plus exactement pour la mémoire. Sans doute a-t-elle des liens avec ce que je relevais tout à l'heure, à savoir notre capacité démultipliée à stocker les informations, à conserver la mémoire qui nous est offerte par la numérisation aujourd'hui. Et là, c'est pas à François Hartog que je fais appel, c'est à une sociologue qui est Régine Robin, qui a écrit un beau livre qui s'appelle « La mémoire saturée », dans laquelle elle réfléchit à tout cet encombrement, au fond, de mémoire, de passé. Donc, d'un côté, encombrement du passé, il suffit de se remémorer ce qui s'est passé lors de la dernière campagne présidentielle en France, où les références à l'histoire ont été permanentes, par exemple, beaucoup plus que les projections dans le futur de la part des deux candidats. Encombrement de toute cette mémoire, présentisme total. Quelle place, finalement, pour le futur? Ben si, une petite place, de plus en plus importante, pour un futur à très long terme, à savoir ces questions de climat dont nous parlons. Mais j'ai le sentiment qu'au total, ce qui est dans un futur beaucoup plus proche, l'horizon à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ce qui faisait l'objet précisément de cette planification et ce qui était peut-être l'objet des prospectivistes comme vous, a un petit peu disparu de nos préoccupations.
Il faut distinguer deux choses. D'une part, les préoccupations des experts et d'autre part, les structures institutionnelles dans lesquelles ils s'insèrent. Sur le second point, vous avez tout à fait raison, d'ailleurs je l'ai vécu moi-même, les instances de planification ont été, par des voies assez détournées, mais finalement qui ont eu un résultat, complètement phagocytées. Et je me suis réjoui d'être parti à la retraite avant cette catastrophe. Alors, sur le présentisme, bon, je suis totalement d'accord avec vous et avec ce constat, mais il y a quand même des opérations économiques, enfin, appelons-les des investissements, qui supposent une réflexion à long terme. C'est tout ce qui est le ferroviaire, les longs courriers, les infrastructures d'une manière générale. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se poursuit dans l'insvalence, simplement parce qu'on ne peut pas s'en passer. Mais il faut faire attention, là, du moment qu'on parle de long terme, on multiplie en même temps les occasions de se tromper, bien sûr. Et c'est pour ça que il faudrait en effet arriver à rétablir une fonction prospective dont il avait été question d'ailleurs dans le cas français, mais c'est resté purement verbal. Et je ne sais pas si le nouveau secrétaire d'État chargé du long terme n'accorde pas plus d'importance à l'économie numérique qu'au long terme proprement dit, mais enfin ça, je m'abstiendrai. Mais voilà pour l'instant ce que je peux dire. La situation n'est pas en effet extrêmement brillante.
Peut-être pour prolonger ma question, puisque ce dont je faisais part, c'était le constat ou le sentiment de quelqu'un qui n'est pas du tout un expert de ces questions et qui a vu les choses se transformer entre le moment où il était étudiant et aujourd'hui, c'est-à-dire et la perte de ce domaine de réflexion qui était la prospective. Alors perte, je dirais pour le grand public, mais j'imagine que pour l'instant, les prospectivistes ont continué malgré tout à travailler. Qu'en est-il de ce domaine de recherche qui est la prospective?
Pour l'instant, c'est quand même un peu le calme plat, hein, faut bien reconnaître. Il y a des gens qui continuent. Il y a la revue Futurible qui est extrêmement active. Mais il se fait des scénarios aussi. Là, quand on ne sait pas trop quoi faire, on fait des scénarios. Et d'ailleurs, c'est très utile. Parce que plus on multiplie les scénarios, plus, malgré tout, on a quelques chances que dans ces scénarios, dans cette population de scénarios, il y en a un ou deux qui taperont juste et qui donc permettront d'éviter certaines erreurs. Mais
comment vous expliquez ce déclin? Vous parliez de phagocytage tout à l'heure des institutions. Est-ce qu'il y a eu une volonté politique de rompre avec cela? Souvent, de façon un peu caricaturale, au plan historique, on associe la prospective à une planification de type soviétique. Et donc, on estimait qu'à partir du moment où cette page de l'histoire des sociétés était définitivement tournée, il fallait tourner avec elle tout projet qui pouvait rappeler le Gosplan, alors qu'à l'évidence, on avait su inventer en France des formes de planification tout à fait différentes. Je ne pense pas que Michel Rocard, ministre du Plan, se vivait comme un soviétique au gouvernement Mauroy.
Non, pas du tout. Je rappelle à ce propos qu'en Tchécoslovaquie, ils se sont refusés absolument au moment où il y a eu l'atmosphère s'est éclaircie. Après 89, ils se sont refusés à appeler le ministère du plan, parce que ça faisait soviétique. Bon, mais ce que je crains, moi, c'est que l'idée du long terme, pour un homme politique, pour un ministre en particulier, c'est générateur de tas d'ennuis, parce que ce qu'on a eu l'imprudence de dire, dans 15 ans, on sera à peu près à ce niveau, si on lui rappelle ensuite ses promesses, il ne peut plus changer d'avis. Et je crois qu'il y a une espèce de, particulièrement au ministère des Finances, une espèce de sainte horreur de toute projection, même à moyen terme. Déjà, une projection à 2 ans, ça paraît, on ne sait jamais, hein, promettre des crédits sur 2 ans.
On raisonne en année budgétaire.
Voilà, c'est ça. Ce qui est désastreux, bien sûr.
Donc on a cette gestion assez incrémentale liée à cette financiarisation, y compris à l'intérieur des pouvoirs publics, on le comprend. Christian de Pertu, peut-être on peut revenir sur cet aspect qui est la prise de conscience, somme toute assez récente, des enjeux du futur à très long terme pour la planète. Alors évidemment, il y a la dimension économique qu'on a commencé d'évoquer, à savoir la difficulté de réfléchir au plan économique en s'arrachant des logiques court-termistes. Mais après tout, on peut imaginer que d'autres anticipations ou d'autres calculs économiques peuvent voir le jour. Il se trouve encore des gens pour planter des forêts quand même aujourd'hui, et donc voir à horizon...
Il y a quelques-uns qui en déplantent aussi.
Oui, on en déplante aussi, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que certains font des calculs qui ne sont pas sur des rendements dans les 2 ou 3 ans qui viennent. C'est une première chose. Mais il n'y a pas que cette dimension économique, il y a aussi la dimension politique. Bernard Kass parlait à l'instant de la difficulté pour les responsables politiques de se projeter dans l'avenir. Mais plus généralement, cette dimension politique est très compliquée à concilier avec le long terme. Comment parvenir à mobiliser des gens pour des générations futures alors qu'on est déjà dans une apathie politique qui font qu'ils ont du mal à se mobiliser pour eux-mêmes?
Alors, d'abord, je voudrais un tout petit peu préciser les choses. Ce que décrit Bernard est évidemment tout à fait vrai, mais il y a quand même encore des endroits dans le monde où on fait de la prospective. Je veux dire, je pense que ce qu'on a vécu aussi en France, c'est une forme d'inadéquation de notre mode d'organisation à des évolutions de la société. Bon. La financiarisation, bon, c'est sûr que aujourd'hui on sent très, très fortement le retour de bâton, mais moi, ce que je crois surtout, c'est que l'origine de tout ça, c'est pas la finance en tant que telle, c'est la façon dont on ne s'est pas occupé de la finance. Vous voyez, c'est une démission des autorités publiques. Hein. C'est pas, je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que les marchés en soi, hein, c'est un mode d'organisation, d'affectation des ressources. Aucun marché ne fonctionne correctement s'il n'y a pas derrière le marché des règles, des lois, des modes d'organisation qui fixent les règles. Et à partir de, le problème qui se pose, c'est à partir du moment où vous laissez le marché fixer les règles, vous êtes dans un truc absolument incontrôlable. C'est ça, donc il faut bien retourner les règles. Alors, moi, je voudrais vous dire deux mots sur le temps du changement climatique et, au fond, le mode même d'organisation qu'on a mis en place pour traiter la question du changement climatique au plan international, car je pense qu'il y a là quelque chose qui est intéressant, qui est absolument passionnant, et moi je fais un boulot absolument passionnant, et surtout je pense qu'il y a des leçons à tirer pour le reste de la société. Alors, premier point, le temps du changement climatique, il faut voir qu'on est vraiment dans le temps long et dans le temps très long. Pourquoi? C'est très simple à comprendre, c'est le problème du stock et du flux, hein, du robinet et de la baignoire. On a tous traité ça au collège, hein, ça nous laisse des souvenirs épouvantables, hein, on remplit une baignoire, il y a une fuite, etc. Bon. Alors pourquoi? Parce que l'activité humaine génère à l'heure actuelle environ un peu moins de 50 milliards de tonnes d'émissions de CO2 ou d'équivalent CO2 par an. Ne retenez pas le chiffre, il n'a aucun intérêt, mais lorsque nous émettons une tonne de CO2 parce que nous prenons l'avion, parce que nous brûlons du charbon dans une chaudière, parce que nous mangeons du bœuf et la vache est une usine à produire du méthane qui est un gaz à effet de serre qui produit 23 fois l'équivalent d'une tonne de CO2 chaque fois qu'il y a une tonne de méthane qui part, en moyenne, les gaz à effet de serre que nous mettons dans l'atmosphère, ils restent 100 ans. En moyenne, vous avez des gaz à effet de serre qui ont une durée de vie beaucoup plus longue et vous avez qui ont une durée un peu moins longue. Et ce qui compte pour le changement climatique, c'est pas du tout le montant des émissions que collectivement nous envoyons dans l'atmosphère, c'est la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Autrement dit, c'est le stock qui est présent dans l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accroissement du stock que nous voyons aujourd'hui, que nous mesurons dans l'atmosphère, il est pour une faible part, très faible part, lié aux émissions que nous avons aujourd'hui, et il est pour une part considérable lié à l'accumulation des émissions que nos prédécesseurs ont mis, et ceci depuis en moyenne 100 ans. Et donc, si on considère, si on écoute avec un tout petit peu d'attention les rapports qui nous viennent de la part des scientifiques. J'y reviendrai dans un instant tout à l'heure. Eh bien, vous voyez que pour pouvoir avoir un impact sur le stock, sur la concentration des gaz à effet de serre, il faut avoir non seulement une action efficace sur les émissions aujourd'hui, mais une émission efficace pendant très longtemps, car il faudra beaucoup de temps pour que le ralentissement du flux puisse avoir un impact sur le stock. Et si, par exemple, on se contentait de bloquer les émissions de gaz à effet de serre à leur niveau d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde augmentent à peu près de 2,5% par an. Si on bloquait les émissions, si on arrêtait cette croissance de 2,5%, ce qui serait déjà un très gros progrès par rapport, il faudrait au moins 40 ans pour que ça commence à apparaître dans le stock. Donc, vous voyez, on est dans une course contre la montre. Donc, ça, c'est le premier point. Le changement climatique, c'est véritablement du fait de cette logique du climat et de la physique du climat, une problématique de très long terme. Deuxième point qui est important, comment la question du changement climatique est-elle
rentrée dans la vie internationale. Elle est rentrée dans la vie internationale essentiellement par une forme inédite de dialogue et de communication entre la communauté scientifique et des gouvernements réunis dans le cadre de l'ONU. En 1987, a été créé un groupe qui s'appelle le GIEC, le Groupement international des experts sur le climat, qui est non pas une task force qu'on réunit, mais qui met en réseau un certain nombre de climatologues et les meilleurs climatologues qu'on a dans le monde entier et à qui on a confié la tâche de publier un rapport d'évaluation à intervalles réguliers sur l'observation des changements climatiques, sur l'observation des émissions de gaz à effet de serre, sur les projections. Ce groupement fait des projections en permanence à 50 ans, 100 ans, et même des modèles de beaucoup plus long terme sur les risques liés au changement climatique. Et le dernier, donc ce groupe des experts internationaux, a rendu 4 rapports d'évaluation, le dernier rapport d'évaluation ayant été rendu public en novembre dernier. Et donc le politique a été sollicité, a été challengé par ce groupe des experts sur le changement climatique au niveau international et puis ensuite au niveau national. C'est pour ça que lorsque vous avez parfois dans les organes de presse des espèces de pseudo-querelles scientifiques sur tel ou tel personnage qu'on pourrait quasiment appeler négationniste si on voulait être un peu polémique. Bon, il faut voir que cette question est documentée. Et ce que disent les climatologues, c'est absolument pas une certitude. Ce que disent les climatologues, c'est très simple. Enfin, non, c'est pas très simple. Mais le message est simple. C'est que on a, depuis le début de la révolution industrielle, provoqué un choc tout à fait considérable dans la machine climat, en modifiant comme jamais ça n'avait été observé dans le passé la composition d'atmosphère et les flux et les échanges d'énergie entre l'atmosphère, le soleil, etc. Et on ne sait pas quelle sera la réponse de la machine climatique. Ce qu'on sait, c'est que le climat a déjà commencé à changer au XXe siècle. Ça, c'est de l'observation. Alors, à moins de trafiquer les thermomètres, personne ne peut contester que la température moyenne sur les 30 dernières années a augmenté d'un peu moins d'un degré par an en moyenne. Plus là où il n'y a pas d'océan, c'est-à-dire plus là où on habite, plus dans les latitudes élevées, dans l'Antarctique, etc. Bon, donc ça, on sait. Mais ce qui est certain, c'est que le début du changement climatique qu'on observe, il est beaucoup plus modéré, beaucoup plus faible que ce qui va se produire dans les décennies, dans les siècles qui viennent, à cause du phénomène que je disais tout à l'heure du temps climatique. Et comme on sait que, de toute façon, même si on arrêtait aujourd'hui des gaz à effet de serre, la concentration des gaz, elle est dans l'atmosphère, et aujourd'hui, on n'a pas de technologie pour aller les rechercher. Vous savez, il y a un ensemble de travail maintenant de travaux sur la prospective technologie dans ces domaines-là, mais pour l'instant, on n'a pas les technologies, donc on sait qu'il va se produire. Donc voilà un peu comment ça se passe. Vous parliez tout à l'heure, Bernard, des choix d'infrastructures. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je suis en train de faire un travail en ce moment très, très pratique, très concret, avec un certain nombre de collectivités locales. Bon. Et la question est la suivante. On a les meilleurs experts du monde qui nous expliquent que le climat va énormément changer dans ce siècle et beaucoup plus dans la deuxième partie de ce siècle que dans la première partie, car le phénomène est cumulatif. Donc le changement climatique qu'il y aura entre 2050 et 2100, il sera beaucoup plus important que celui qu'on va voir dans les 20 prochaines années. Les infrastructures qu'on construit aujourd'hui, quand vous faites une ligne de transport, lorsque vous faites un pont, ça dure 100 ans. Lorsque vous construisez une centrale qui produit de l'énergie, ça dure 70 ans. Comment est-ce que vous intégrez dans votre décision d'investissement aujourd'hui le changement climatique futur ? Je vais vous dire, vous ne l'intégrez pas. Vous intégrez le risque climatique en prenant la distribution statistique des 30 dernières années. Et vous dites, j'ai sur les 30 dernières années une certaine distribution statistique, je considère que dans les 30 prochaines années, même dans les 50 prochaines années, c'est le risque qui est lié à mon infrastructure. Donc vous voyez combien notre société, nos modes de travailler sont extraordinairement peu, ne prennent extraordinairement peu en compte cette logique du changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais peut-être, si vous me laissez sur le changement climatique, je risque de ne pas m'arrêter. Donc, il faut que vous. Vous m'arrêtiez, parce que sinon, ça va être infernal pour eux.
Je vous redonnerai la parole tout de suite. Mais, du coup, en vous entendant, une question pour Bernard Cazes, c'est quand même ce à quoi on assiste avec la prise de conscience de la gravité de cette question qui maintenant fait l'objet régulièrement de ces sommets internationaux qui occupe une place de plus en plus importante dans l'espace public, même si il y a encore beaucoup de travail à faire pour que des mesures concrètes probablement soient prises. Est-ce que, selon vous, qui avez l'habitude de réfléchir au futur, c'est la première fois que le futur à très long terme, comme ça, est à ce point pris au sérieux par des instances politiques internationales, par des gouvernements nationaux. Moi, j'ai pas le sentiment que dans l'histoire de l'humanité, on puisse trouver d'équivalent. Évidemment, on a toujours, et tous les régimes politiques se sont sans doute posé la question de demain, du futur. Mais cela posé de cette manière-là, avec ce danger qui pointe à l'horizon, et avec cette volonté d'essayer d'en dessiner, je dirais, les contours, de se doter des instruments de mesure et d'anticipation de ce qui peut se passer, et avec pour objectif de mettre en œuvre des politiques qui peuvent peut-être essayer de limiter ou de contrecarrer les effets probables. Est-ce qu'on a bien affaire à une première ?
Je le crois. Je comptais d'ailleurs commencer mon exposé en rappelant quelque chose qui maintenant est un peu oublié malgré tout, mais qui a fait un choc extraordinaire à l'époque, c'est le rapport Meadows, qui s'appelait en français, de manière un petit peu déformée, « Halte à la croissance, point d'interrogation ». En anglais, c'était un tout petit peu plus modeste, « Limite à la croissance, point d'interrogation ». Et à l'époque, ça a déclenché un véritable dialogue de sourds entre les optimistes technologiques et de l'autre, les gens comme le Club de Rome, qui, au contraire, étaient très inquiets, les échos alarmistes. Non, ça, c'est vraiment une première, parce que je crois que, me semble-t-il, le facteur important, c'est que les unités de mesure utilisées pour quantifier la dégradation du climat, en somme, étaient beaucoup plus précises, et donc quand même plus difficiles à réfuter, que du temps où le MIT publiait le rapport Meadows, parce qu'à ce moment-là, c'était pas du pifomètre, mais enfin, malgré toute la sophistication méthodologique du rapport Meadows, ça tenait pas la route. Et d'ailleurs, de bons esprits en France, qui n'étaient pas spécialement anti-écologiques, ont qualifié le rapport Meadows de le plus mauvais modèle du monde. Il y a eu notamment, je ne sais plus, quelqu'un de l'INSEE qui a démoli complètement cela. Donc là, je crois vraiment qu'il y a eu un déclic, là. Mais ça n'empêche pas les combats d'arrière-garde de se poursuivre. Vous trouverez dans le numéro de ce mois-ci de Futurible un article d'André Lebeau, l'ancien président de France Météo France, qui rappelle toutes les manœuvres de diversion et de retardement utilisées pour contester la crédibilité du GIEC. Et c'est fascinant, quoi. Et il est paru aussi un livre de... J'ai oublié son nom. Enfin, c'était le ministre des Finances de Mme Thatcher qui a essayé de démolir tous les rapports du GIEC en disant non, il ne faut pas exagérer, une grande partie n'est pas liée à l'homme, une partie est liée uniquement à des phénomènes physiques qui n'ont rien à voir avec l'activité humaine. Mais ça devient de plus en plus difficile. Mais ce qui n'a pas gagné en facilité, c'est de décrocher l'assentiment des autorités politiques. Vous avez d'un côté les États-Unis, dont le président Bush a mené jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa carrière présidentielle, un combat de négation contre tous les efforts pour arrêter la dégradation du climat. Vous avez ce qu'on appelle les BRIC, les pays émergents, Brésil, Russie, Inde et Chine, qui disent, bah oui, bah écoutez, nous, maintenant, on aimerait bien, nous aussi, croître plus vite. Pourquoi est-ce que les pays occidentaux nous empêcheraient de consommer à tire-larigot et de polluer à tire-larigot? Donc, là, il y a des problèmes considérables de partage des frais et de partage de la note entre pays développés, pays émergents et pays réellement sous-développés qui sont les tares venues de la croissance.
Alors là, dans ce cas précis de prise de conscience du futur, s'agissant du climat, on l'a dit, ça a été rappelé, les tireurs d'alarme ou les sonneurs d'alerte, comme disent désormais les sociologues qui s'intéressent à ces questions, sont des scientifiques, des experts, des climatologues, qui agissent dans un cadre qui est un réseau international, plus que dans celui d'une institution existante, et qui parviennent à mobiliser, à intéresser les politiques. Comment concrètement ça se passe, Christian de Pertuis?
Alors, il faut voir, d'abord les choses évoluent, hein, et elles évoluent pas toutes quand même. Il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de machin un peu noir, là où on déprime tous, quoi. Elles évoluent avec des choses positives et des choses négatives. Alors, ce qui est très frappant dans le cas du changement climatique, c'est qu'à l'origine, ce sont effectivement les scientifiques et les organisations écologiques ont été très en retrait. Le changement climatique est probablement l'un des domaines de l'économie et de l'environnement où les scientifiques ont toujours été beaucoup plus inquiets que Greenpeace ou WWF. Et ceci pour une raison très simple, c'est que le CO2 est un gaz inodore, incolore, absolument inoffensif. Hein, nous en produisons tous, vous et moi, dans cette salle. Et ce n'est pas un polluant au sens... ce n'est pas un gaz qui porte une atteinte à notre intégrité physique immédiate, si vous voulez. Bon. Donc, à l'origine, vraiment, au démarrage, on va dire, le savant est non pas le politique, mais quand même, c'est les Nations Unies, hein, qui ont fait un rôle important. Et il y a eu un moment très important dans la prise de conscience internationale qui a été la conférence de Rio de 1992. Le sommet mondial de la Terre de Rio a été la première grande réunion internationale dans laquelle les représentants des États se sont mis dans une conférence en dialogue avec les représentants de la société civile, qu'il s'agisse du monde économique ou qu'il s'agisse des ONG, des organisations non gouvernementales. Et là, il y a eu un début de prise de conscience, et cette prise de conscience a été marquée par l'adoption d'une convention internationale sous l'égide de l'ONU qui s'appelle la Convention cadre sur le changement climatique. Cette convention cadre sur le changement climatique, elle exprime en droit international une notion simple que le changement climatique est avéré, qu'il est lié à l'activité humaine et que face à ce changement climatique, les parties, ce qu'on appelle les parties en langage onusien, ça veut dire les pays membres de l'ONU qui ratifient la convention, portent une responsabilité commune mais différenciée. Commune, ça veut dire que chaque pays porte une partie de la responsabilité. Différenciée, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre, comme le disait Bernard Cazes, sur le même plan les pays émergents, les pays en retard de développement et des pays comme l'Europe, pire les États-Unis, qui ont des responsabilités très différentes. Arrive ensuite et la convention cadre sur le changement climatique, et ça c'est un point très concret que souvent les gens ont du mal à comprendre, ça met en place une organisation de gouvernance internationale avec un processus continu de négociation, un secrétariat qui est basé à Bonn en Allemagne, et l'organisation chaque année d'une conférence sur le climat. C'est pour ça que chaque année, à la fin de l'année, l'année dernière c'était à Bali, il y a 2 ans c'était au Kenya, c'est quoi la capitale du Kenya? Nairobi, pardon, oui. Donc là vous avez cette année c'est à Poznan en Pologne, et l'année prochaine c'est à Copenhague. Donc on a ce réseau international qui fonctionne dans le cadre de l'ONU avec chaque pays qui a ratifié la convention cadre sur le changement climatique qui envoie ses délégués. La quatrième réunion, on appelle ça les COP, Conference of the Parties, enfin conférence des parties, on peut dire. La quatrième COP s'est tenu en 1997 au Japon, à Kyoto. Et c'est là qu'on a signé le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto est extrêmement important parce que par rapport à la convention cadre, c'est un peu comme un décret d'application par rapport à une loi. Tant que vous avez la loi qui donne les principes, mais pas de décret d'application qui explique comment ça va marcher, c'est un peu, on en trouve pas mal dans la législation française, des lois qui n'ont pas de décret d'application, ça sert à rien. Protocole de Kyoto, c'est le décret d'application. Et il a deux composantes qui sont intéressantes et qui montrent bien aujourd'hui toute la difficulté de la négociation climatique et toutes les limites du protocole de Kyoto. Premier point, le protocole de Kyoto est le premier texte par lequel un certain nombre de pays dans le monde s'engagent à réduire, à plafonner leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'au protocole de Kyoto, on considérait l'atmosphère comme une sorte de réceptacle, hein, un réservoir absolument infini dans lequel on peut balancer autant de gaz à effet de serre qu'on veut. À partir de la période d'application du protocole de Kyoto, qui commence en 2008 et qui se termine en 2012, les pays industrialisés et les pays en transition vers l'économie marché s'engagent à réduire leurs émissions en moyenne de 5% par rapport à une année de base qui est 1990. Et s'ils ne parviennent pas à réduire, à respecter leurs obligations, ils se mettent en infraction. Donc c'est on dit ça legally binding, donc c'est légalement contraignant. C'est plus un principe, c'est un engagement. Bon. Et l'autre volet qui est important dans le protocole de Kyoto, c'est qu'on applique le principe de responsabilité différenciée en disant « je partage le monde en deux ». Il y a les pays d'industrialisation ancienne plus les pays en transition qui ont cet engagement de réduction, donc cette restriction du droit à émettre des gaz à effet de serre, et le reste du monde, qui ce qu'on appelle hors annexe B, c'est ceux qui ne sont pas mentionnés dans cette première annexe, eux, on leur met aucune restriction. Donc la Chine, l'Inde, le Brésil et tous les pays émergents, aujourd'hui, ont ratifié le protocole de Kyoto, mais le protocole de Kyoto ne leur met pas d'obligation. En 2001, qu'est-ce qui se passe ? La Convention cadre sur le changement climatique a été ratifiée par tous les pays du monde, sauf l'Irak. L'Irak est le seul grand pays qui n'ait pas ratifié la Convention cadre sur le changement climatique. Mais tout le monde est tout le monde là-dedans, les États-Unis, l'Arabie saoudite. Alors croyez-moi, quand vous êtes dans la négociation, c'est évidemment très compliqué, parce que les Américains sont casse-pieds, mais alors les Saoudiens ou les Russes, là, c'est vraiment terrible. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite dans la négociation internationale pour qu'un traité international contraignant rentre en application dans une démocratie, il faut le faire ratifier par le Parlement. Or, aux États-Unis, à l'époque, le président Clinton et son vice-président, fameux aujourd'hui pour faire du cinéma sur le changement climatique, Al Gore, avaient signé le protocole de Kyoto en 1997, et c'était Al Gore qui a personnellement signé à Kyoto, mais en 2001, Bush dit qu'il sort du système de Kyoto. En réalité, le président Clinton n'a jamais envoyé des instruments de ratification au Congrès. Donc, c'est pas possible qu'un État, enfin, que les États, aux États-Unis, si vous n'avez pas une ratification d'un traité international par le Sénat, il ne rentrera pas en application. Donc, il y avait déjà. Bon. Et à partir du moment où les États-Unis sortent de Kyoto, ça a deux conséquences. La première, c'est que en raison des règles du traité, pour que le traité rentre en application, il faut que la Russie ratifie. Donc, on a donné un pouvoir de négociation complètement disproportionné à Poutine et à la Russie, qui a obtenu des compensations absolument phénoménales. Donc la Russie, effectivement, aujourd'hui, est signataire du protocole de Kyoto, mais en gros, on lui a donné des droits d'émission qu'elle peut revendre sur le marché international. Donc tout ceci est extrêmement sympathique. Mais le jour où les contraintes vont devenir réelles en Russie, croyez-moi, ça va être une autre paire de manches. Bon. Et surtout... l'efficacité du protocole de Kyoto était complètement diminuée, parce que les États-Unis émettent en moyenne un peu plus du cinquième des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, en moyenne 20 tonnes de CO2 et 24 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, alors qu'en Europe on est à 11, alors qu'en Chine on est déjà à 6 et qu'en Inde on est encore à 2. Je ne parle pas des pays d'Afrique subsaharienne où on est à moins de 1. Donc vous voyez que le pays le plus important dans l'accord et dans les engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre a fait faux bond et a affaibli considérablement le protocole de Kyoto. Mais l'histoire n'est pas terminée parce que le protocole de Kyoto a créé également un certain nombre d'instruments économiques sur lesquels vous voulez que je m'exprime maintenant ou peut-être plus tard ? Je ne veux pas monopoliser la parole. Hein.
Non, mais je ne sais pas, peut-être sur cet aspect des choses, Bernard Caisse veut...
Sur le climat, je crois.
Non, vous aviez prévu d'intervenir de façon plus formelle
Sur autre chose, oui, mais pas sur...
Alors, on laisse Christian de Pertuis terminer.
Donnez-moi un crédit de temps, parce que sinon... 5 minutes ?
Oui,
5 minutes. Alors, 5 minutes. La suite de l'histoire, c'est quoi ? C'est que, en fait, il y a 3 questions principales. Première question, c'est une question d'équité. Question d'équité internationale. Comment est-ce qu'on met dans un accord international à la fois des pays comme les États-Unis, des pays comme l'Europe, des pays comme la Chine ou l'Inde qui ont des faibles niveaux absolus d'émissions mais qui ont une contribution phénoménale à l'accroissement. La Chine aujourd'hui contribue à plus de 60% de l'accroissement annuel des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. On a mis en 2006 une centrale à charbon en service tous les 15 jours en Chine. C'est-à-dire que sur l'année, on a accru le parc de production électrique avec du charbon, ce qui est le plus émetteur possible dans le monde, d'un montant qui est équivalent à la totalité du parc électronucléaire qui est installé en France. Bon. Donc il y a une question d'équité, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place un régime climatique avec des niveaux de responsabilité différenciés. Pour ma part, je pense que d'enlever toute limite au droit à émettre de pays comme la Chine, comme l'Inde et comme le Brésil est une profonde erreur. Je pense que la bonne application du principe d'équité, c'est de trouver d'autres modes de compensation pour les pays en besoin de développement, pour les pays les moins avancés, notamment pour les pays les moins avancés, les 3 formes de compensation les plus importantes sont 1. Assurer la garantie, la sécurité d'approvisionnement énergétique des pays les plus pauvres, car on voit bien que l'essentiel de la mutation qu'il faut faire pour le changement climatique, ça concerne l'énergie. Plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre, c'est lié au système énergétique. Bon, il ne faut pas dire aux pays d'Afrique subsaharienne, vous avez un droit illimité à émettre. Il faut par contre mobiliser des ressources pour assurer la sécurité énergétique de ces pays. 2, ça veut dire assurer une sécurité agricole à ces pays. Ne croyez pas que l'agriculture et la forêt soient en dehors de la question climatique. C'est la principale question du changement climatique dans tous les pays du Sud. La destruction de la forêt tropicale n'est pas un problème forestier, c'est un problème agricole. Ce n'est pas pour le plaisir de couper les arbres en forêt tropicale humide qu'on le fait, c'est parce qu'on coupe les arbres pour produire de la nourriture ou pour produire des produits agricoles qui ensuite parfois sont utilisés pour faire ce qu'on appelle des biocarburants aux États-Unis. Donc le fond du problème aujourd'hui, c'est comment aider les pays à faire cette mutation indispensable de leur agriculture pour protéger leurs forêts. Au Brésil, qui est de très loin le pays où en volume on détruit le plus de forêts tropicales, pas en rythme. En rythme, c'est en Indonésie ou dans le bassin du Congo. Hein, au Brésil, 80% des terres, enfin des hectares de forêts qui sont coupés, on fait des ranchs pour produire du bœuf. Et donc, tant que on aura intérêt à produire du bœuf à la place de la forêt, on continuera à le faire. Il faut donc mettre les bonnes incitations économiques. Et les 20% qui restent, ce sont des petits paysans qui mettent du manioc et qui nourrissent leur famille avec du manioc. C'est ça la réalité. Donc voilà les bonnes compensations. Et la 3e compensation qu'il faut faire avec les pays en voie de développement, c'est évidemment les aider à l'adaptation au changement climatique. On sait parfaitement aujourd'hui qu'un pays comme le Bangladesh va être extraordinairement affecté par les impacts du changement climatique. Pour des raisons évidentes, vous avez à peu près 30% du pays qui est un delta, et donc qui va être marqué par la montée des eaux. Et ça ne va pas être un tsunami, hein, ça va être une montée lente des eaux qui commence par la salinisation du sol et la destruction du potentiel agricole du pays. Vous avez tous les grands fleuves en Asie dont le régime hydrique va être totalement modifié parce que tout le régime hydrique de ces fleuves est lié à la plus grande réserve de glace au monde, la plus grande réserve d'eau douce au monde sur le continent, c'est le massif de l'Himalaya. Donc on sait toutes ces choses-là. Il faut évidemment faire des compensations. Il ne faut pas dire à l'Inde et au Bangladesh, vous avez un droit illimité d'émettre du gaz à effet de serre. Il faut trouver des compensations pour aider ces pays à gérer aujourd'hui leurs investissements, leurs adaptations aux impacts du changement climatique. Vous avez un deuxième, je termine juste, un deuxième challenge, c'est le challenge technologique. Si je projette aujourd'hui le monde des technologies actuelles dans le secteur énergétique et dans le secteur agroforestier à 50 ans, je n'ai aucune chance sérieuse et raisonnable de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les proportions qu'il faut.
Et donc, ça veut dire que si nous n'avons pas une certaine forme d'innovation et de rupture technologique dans la façon dont on produit l'énergie, dans la façon dont on cultive les terres, dans la façon dont on peut adapter les bonnes ressources agricoles au bon climat, on va dans une impasse. Je ne pense pas pour ma part qu'on va trouver un accord climatique dans lequel des pays comme l'Inde, comme la Chine, ne vont pas exploiter leur charbon. Ils vont exploiter leur charbon. Par contre, je pense qu'il faut trouver des méthodes et des technologies qui permettent, effectivement, de capturer le carbone et d'éviter qu'il parte dans l'atmosphère. Donc, cette approche technologique est absolument indispensable et je considère que si nous n'avons pas une certaine confiance, une certaine forme d'optimisme dans la technologie, ce ne sera pas possible de faire les adaptations dans les temps qu'il faut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne nous occupons pas du climat, c'est le climat qui s'occupera de nous. Ça veut dire que, de toute façon, le climat va changer. Donc, si nous ne mettons pas en place les modalités d'une proactivité par rapport au climat, c'est le climat qui sera proactif par rapport à nous. Et ça se passera dans des formes, évidemment, beaucoup plus conflictuelles et, je pense, beaucoup plus avec des coûts humains et des coûts sociaux beaucoup plus grands. Dernier point, il faut évidemment des instruments économiques. Et c'est vrai que pour nous qui travaillons complètement dans le changement climatique, le côté comment dire, le côté grande communication aujourd'hui sur le changement climatique commence à devenir fatigant, si vous voulez. Quand on ne peut plus entendre une publicité pour une voiture ou pour une marque de grande distribution qui ne vous explique pas que c'est en achetant le dernier modèle de je ne sais pas quelle marque que vous allez contribuer à la lutte contre l'effet de serre, ça devient un peu lassant. Hein. Bien évidemment, il faut, pour faire cette mutation face au changement climatique, introduire des instruments économiques extrêmement puissants. Et ces instruments économiques extrêmement puissants, ce sont des instruments économiques qui donnent une valeur aux émissions de gaz à effet de serre et qui récompensent économiquement les acteurs qui réduisent leurs émissions et qui pénalisent les acteurs qui accroissent leurs émissions. Il y a deux types d'instruments économiques qui permettent de faire ça. Soit vous mettez une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre, une taxe sur le carbone, soit vous mettez des systèmes de marché de permis d'émission. Pour des raisons que je n'ai pas développées, car je vais m'arrêter là, les choix qui ont été faits dans le protocole de Kyoto et en Europe depuis 2005, c'est d'utiliser des systèmes de marché de permis d'émission plutôt que des taxes. Je pense que ces choix sont des choix dont on peut très longtemps discuter les bien fondés. Et je peux, en tant que professeur d'économie, vous démontrer qu'il serait probablement, dans un monde parfait des manuels universitaires, beaucoup plus rationnel de mettre en place une taxe internationale sur le carbone que des marchés de permis d'émission. Mais pour des raisons d'acceptabilité et de faisabilité pratique, on a pris la solution des marchés de permis d'émission. Donc moi, ce que j'essaie de faire à mon niveau, à la fac, et encore plus à la Caisse des dépôts, où je dirige la mission climat, j'essaie de mettre en place des instruments de recherche et d'application qui permettent d'avoir la bonne utilisation de ces instruments, car je suis convaincu qu'une forme vraiment intelligente d'utiliser des mécanismes de marché, y compris des marchés financiers, c'est d'utiliser ces marchés pour donner une valeur croissante aux émissions de gaz à effet de serre en modifiant graduellement le comportement des agents économiques. Et je pense que ce sera la mutation économique la plus importante de l'économie internationale au XXIe siècle.
Merci. J'ai beaucoup de questions, mais je vais vous donner la parole. Enfin, je vais la donner d'abord à Bernard Cazes, si vous aviez prévu de nous dire quelque chose aussi, et puis on reviendra sur tout ça ensemble après.
Je voulais repartir de l'idée mise dans le document préparatoire à notre présente séance, sur le thème du désenchantement à l'égard des nouvelles technologies. Et je voulais évoquer le cas des OGM, parce que voilà une innovation technologique qui suscite des controverses à l'infini, qui donne même lieu à des affrontements physiques, qui donne lieu à des bonnes consciences, soit de la part de ceux qui coupent les épis de maïs, soit de la part de ceux qui tirent sur les coupeurs de maïs. Et je me demande, comme le suggérait Jean-Paul Houry, je ne sais pas si vous le connaissez, Christian, s'il ne faudrait pas voir là, non pas un affrontement politique, mais un affrontement idéologique lié à une vision différente de la nature. Une vision dans laquelle certains voient dans la nature un patrimoine qu'il faut préserver et auquel l'homme doit rester largement soumis, ou bien au contraire, un milieu que l'homme n'a cessé de modifier depuis la plus haute antiquité et qui conditionne sa survie, puisque grâce à lui, il pourra s'alimenter à de meilleures conditions, du moins dans certaines régions. Et par conséquent, ce serait aux politiques, on retrouve une fois de plus la nécessité de compléter des mécanismes de marché par un processus politique, ce serait aux politiques à organiser une coexistence aussi pacifique que possible entre les deux, j'allais dire, les deux cultures, finalement. Bon, ensuite, je souhaitais terminer par deux autres sources d'inquiétude mentionnées par le document préparatoire, à savoir la menace terroriste et le sida. Mais, bon, pour l'instant, je cède mon temps de parole pour permettre d'autres interventions.
C'est déjà des champs énormes que ceux qu'on a abordés. Je voulais revenir quand même sur cette façon d'avoir ou pas prise, au fond, sur le futur, parce que c'est notre sujet. Vous disiez tout à l'heure, Christian de Pertuis, l'utilisation de la thématique écologique, et en particulier du climat, par les grandes marques dans leur stratégie de communication, dans leur publicité, ça devient lassant. Alors, moi, ça devient peut-être lassant pour quelqu'un qui connaît bien les questions comme vous. Je pense que pour le grand public, ça devient surtout la confusion la plus totale. C'est-à-dire que, loin d'être lassé, je pense que si les marques utilisent ce registre, c'est qu'il a quelque efficacité et que probablement on parvient à convaincre des gens d'acheter une voiture plutôt qu'une autre en leur faisant croire qu'elle sera plus verte. Ça a un nom, ça s'appelle le greenwashing, donc laver plus vert en quelque sorte, en verdissant absolument tous les messages de communication qui n'ont pas perdu leur objectif numéro un, qui reste toujours le même, à savoir consommer, vendre, faire qu'on achète, etc. Et on voit bien quelles sont les logiques premières de l'économie, la croissance, et on voit bien dans la situation de crise dans laquelle on est les inquiétudes naître à propos de la perte de cette croissance. La une du Monde de cet après-midi, où on nous dit que même la Chine maintenant est affectée par la crise économique et que son taux de croissance passera à sous la barre des 10% par trimestre. Donc tout est relatif. Chacun s'inquiète des proportions qui l'intéressent. Moi, quand je posais la question de savoir quelle prise on peut avoir sur le futur, c'est évidemment la question difficile des manières de mobiliser politiquement dans un avenir aussi lointain pour les générations futures. Et c'est aussi les doutes émis quant à l'efficacité du formalisme juridique ou des sophistications économiques, qu'elles soient d'ordre fiscal ou autre, qui pourraient venir encadrer les marchés. Est-ce vraiment parce que le protocole de Kyoto n'a pas été ratifié par les parlements nationaux, qui n'a pas de force exécutoire? Le traité de Maastricht a bien été ratifié par les parlements nationaux. On voit bien comment il est malmené dans une période de crise et comment des sociétés préoccupées, et on voit bien pourquoi elles le sont, par des considérations de court terme, peuvent être amenées à tout moment à remettre en cause des engagements de long terme par des conjonctures qui font qu'elles ne pourraient pas admettre du jour au lendemain de diviser par deux leur consommation d'énergie ou leur consommation de bien d'autres biens dont elles estiment avoir immédiatement besoin. Donc pour moi, autant je pense que ce formalisme juridique, ce que les institutions internationales comme l'ONU peuvent apporter, est important.
Mais je doute que ce soit suffisant. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que cette question de l'emprise sur le futur est une question d'abord et avant tout politique, et que la façon de mobiliser politiquement des individus sur des sujets comme cela, compte tenu de leur calendrier, reste pour moi un grand mystère, sauf peut-être à construire des mouvements politiques, mais qui, pour le coup, verseraient dans certaines formes de messianisme, tant ils seraient orientés vers le futur. Je vous livre ces questions et ces interrogations, ces inquiétudes même.
Oui, ben, je pense que je comprends ce que vous voulez dire. Bon, d'abord, l'ONU, c'est quand même un peu politique, si vous voulez. Donc moi, je pense que ce que donne l'ONU, c'est un cadre dans lequel les États peuvent se rencontrer et dialoguer. Ça me paraît mieux, si vous voulez, que d'autres formes de rencontres, plus rugueuses ou plus guerrières. Bon. Bien évidemment, après, il faut des accords entre politiques. Moi, je trouve que en matière de changement climatique, l'Europe, jusqu'à présent, joue bien. L'Europe joue bien. Je pense que c'est à peu près l'un des rares domaines dans lequel l'Europe fait des choses intelligentes. Alors, elle ne fait pas des choses aussi vite qu'on le souhaiterait, mais vous savez, vous avez aujourd'hui, hein, en discussion à Bruxelles, hein, ce qu'on appelle le paquet énergie-climat. Je pense que les engagements qu'ont pris l'Europe avec 27 pays aujourd'hui sont de vrais engagements. Bon. Ce n'est pas à la hauteur des ambitions, mais je pense que c'est un début de choses qui va dans le bon sens. Alors après, comment, le nerf de la guerre, c'est quoi ? J'ai pas voulu être peut-être un peu excessif dans ce que j'ai dit sur le greenwashing. Bon, j'ai pas voulu être anti-entreprise. Ce que je pense, c'est que le nerf de la guerre, c'est effectivement dans les instruments économiques et dans la tarification de la. Il faut mettre dans l'économie la valeur de l'environnement, si vous voulez. Et tant que on n'a pas mis dans l'économie la valeur de l'environnement, eh bien, on fera plus des discours que peut-être messianiques, mais à mon avis, il manquera quelque chose, si vous voulez. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'il y a cette valeur économique ? Ça commence en Europe, hein, si vous êtes un producteur énergétique, hein, commencez avec un prix du CO2 à 25 euros la tonne, vous ne faites pas les mêmes choix. Hein. Pas du tout les mêmes choix, ni dans la gestion de vos équipements, ni dans vos investissements. Vous avez une très forte incitation à faire des investissements dans des énergies non carbonées, les renouvelables et d'autres. Bon. Les grands domaines sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas ça, c'est quoi ? Ben, c'est le transport. On sait qu'il faut très rapidement qu'on mette ça va très au-delà du bonus-malus écologique. Il faut qu'on mette vraiment le prix du CO2 dans ces choses-là. Bon. Et je pense que demain, il faudra, lorsqu'on va vouloir faire des choses intelligentes sur l'agriculture et la forêt, il faut aussi traiter la question sous l'angle économique. Les agriculteurs sont des opérateurs économiques extrêmement avertis. Hein, souvent, on a une espèce de... On dit que les agriculteurs sont c'est des petits entrepreneurs. Non, les agriculteurs sont... Mais il faut leur envoyer des bons signaux. Donc moi, c'est ce que je pense que c'est une contribution qui va dans le bon sens. Est-ce que c'est à la bonne vitesse ? Est-ce que, probablement pas. Mais je ne vois pas très bien quelle est l'alternative, si vous voulez. Oui, je ne vois pas très bien quelle est l'alternative. Et je pense qu'il faut se garder aussi une espèce de forme un peu de catastrophisme écologique qui n'est pas très motivant pour l'action. Quoi.
Bernard Cazes, vous vouliez intervenir.
Oui, sur un point qui est peut-être de détail, mais vous vous réjouissez de ce que...
Allez-y.
Oui, vous vous réjouissez de ce que l'Europe se comporte de manière... plutôt rationnel. Je fais une réserve simplement sur l'absence de cohérence ou de cohésion dans les choix européens en matière de gazoduc ou d'oléoduc, car l'Allemagne, de ce point de vue, n'est pas très fair-play. Enfin, elle a une fâcheuse tendance à privilégier des choix favorables à une prépondérance russe dans l'acheminement du gaz ou du pétrole. Je crois que l'Italie en fait autant. Donc, de ce point de vue, je fais une réserve. Cela dit, ça ne touche rien à l'essentiel sur la tarification de la thermie ou du carbone.
Alors, je vais reposer au fond toujours la même question avec des termes différents, mais ça, c'est peut-être ma formation de sociologue de la politique qui veut ça. Moi, j'ai quelques doutes sur la capacité, plutôt quelques certitudes sur la difficulté à initier cette mobilisation politique sur ces questions. Tout simplement parce que j'ai le sentiment que plus les mobilisations doivent être globales, et là on a affaire à des questions d'ordre planétaire, global, plus les stratégies qu'a décrites en son temps un économiste qui s'appelle Mansour Olson, de free rider, c'est-à-dire de cavaliers gratuits, de voyageurs clandestins, c'est-à-dire, vous savez, ces situations très, très, qu'on connaît tous, quand on décide que, bah, après tout, on ne va pas aller manifester, puisqu'on sait qu'on a des collègues qui vont y aller, donc autant en profiter de son dimanche et ne pas perdre son temps dans la rue à manifester, on profitera en revanche des effets de la manifestation. On peut appliquer le même genre de comportement, évidemment, au vote. Et on voit à quel point, quand on a affaire à des entités politiques de plus en plus larges, cette tentation de la stratégie du free rider est de plus en plus forte. Alors on peut en parler à propos du tri des déchets, à propos mais surtout à propos évidemment du climat. Moi je ne sais pas comment on sort d'une situation comme celle-là, je ne sais pas comment on arrive à faire naître une mobilisation politique dès lors que... Il sera très compliqué à beaucoup d'entre nous de se convaincre de changer son comportement personnel, puisqu'évidemment ce comportement personnel est infinitésimalement marginal, eu égard à l'effet souhaité. Enfin, voilà, on sait très bien ce qu'il en est d'un vote par rapport au résultat d'une élection, mais là on parle de choses à la puissance, je ne sais combien de milliards. Donc, j'ai une vraie question qui, à mon sens, est une question d'ordre politique. C'est-à-dire qu'on pourra... Évidemment, il y a des enjeux qui consistent à, comme vous dites, réinsérer de la valeur climatique, la valeur environnement dans l'économie. J'entends bien. Est-ce que ça suffira pour autant? Est-ce qu'on peut se passer de cette mobilisation politique et ne pas faire comme si cette mobilisation politique est probablement la plus difficile qui soit à obtenir?
Bah oui, mais moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que le prix... Non, le prix, ça ne suffit pas. Mobilisation politique, je ne sais pas très bien concrètement ce que ça veut dire. Oui, non, j'ai bien entendu. Moi, je pense qu'il y a deux formes de mobilisation qui sont absolument fondamentales. La première, c'est quand même... Bon, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la technologie... La technologie, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des efforts et des orientations très fortes en matière de technologie qui ne sont pas faites. À l'heure actuelle, si vous regardez les budgets recherche et développement dans les pays qui font de la recherche et développement forte sur le secteur des énergies, c'est en France, par exemple, où on est dans les pays où on a le plus fort ratio encore. On a décliné très fortement et on fait uniquement une forme de recherche qui est en gros le nucléaire. Bon.
Oui, mais si on s'arrête un instant sur le nucléaire, ouais. C'est pas seulement un blocage technologique. Vous savez comme moi que le programme nucléaire en Grande-Bretagne a été stoppé, que le nucléaire de quatrième génération, il y a des choix politiques qui ont été faits. Aujourd'hui, un certain nombre de... Je lisais un article il y a 15 jours dans le New Statesman là-dessus, qui est un journal plutôt, on va dire, conscient des problèmes environnementaux, mais qui s'étonnait que, s'appuyant sur des travaux d'un scientifique, d'un professeur de Cambridge, s'étonnant du fait qu'on ne se pose pas davantage la question de la remise en route d'un programme nucléaire de quatrième génération en Grande-Bretagne, puisqu'on ne voit pas très bien d'autres manières de régler la question énergétique.
Ça, je peux vous rassurer, en Grande-Bretagne, il est en route. En Grande-Bretagne, il est en route. En Allemagne, en Italie, non, mais en Grande-Bretagne, il en route. Mais bon, ça, c'est un premier volet. L'autre volet, à mon avis, qui est très important, je pense que une grande partie de la prise de conscience et de la mobilisation citoyenne, comme vous dites, et c'est pareil aussi avec les pays du Sud, consiste à ne pas traiter la question du changement climatique en général, ne pas dire aux gens... ça va être horrible demain, donc faites des efforts, changez vos modes de vie. Vous avez envie d'avoir un pavillon, allez dans un HLM. Vous avez envie de prendre la voiture, prendre les transports en commun. Ça consiste à prendre des territoires, prendre des villes et poser tout simplement la question des impacts du changement climatique et partir de la façon dont le changement climatique nous impacte. Et je pense que ça change beaucoup de choses. On a développé... une activité assez nouvelle maintenant avec des collectivités territoriales. Et moi, chaque fois que je vais en province, j'y vais à peu près deux fois par mois, je ne démarre jamais les trucs par le GIEC, les impacts locaux.
Parce que très souvent, on est encore dans une forme de raisonnement comme si c'était, je sais pas comment dire, une espèce de changement climatique, c'est une espèce d'extériorité à nous, vous voyez, comme si c'était bon. Et donc, non, il faut partir des choses très concrètes. Et quand vous commencez à... Bon, là, par exemple,
il y a extériorité à la durée de vie de la plupart d'entre nous. Donc
non, pas si vous êtes sur des choses
catastrophiques, oui.
Pas si vous êtes sur des infrastructures. Si vous voulez, il y a 15 jours, on était dans un travail de justement avec un certain nombre de gestionnaires de collectivités territoriales sur les inondations et le changement climatique. Bon. Et quand vous traitez des questions documentées, c'est là où il faut documenter. Et moi, je pense que il y a un rôle très important des météos nationales, de l'autorité publique. C'est vrai que les messages publicitaires qui vous rappellent tout ça, c'est bien, mais quand même, il y a une responsabilité de l'autorité publique aussi sur la bonne information. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait des créneaux d'information qui soient ni catastrophiques, qui soient documentés sur les impacts locaux. Et ça, je pense que ça crée vraiment des prises de conscience qui dépassent un petit peu le pur verbal, quoi, si vous voulez. Donc moi j'ai beaucoup je pense que de toute façon nos sociétés vont se bouger à partir du moment où les impacts vont apparaître de façon croissante, et ce qui est souhaitable, c'est qu'on ait une capacité d'anticipation sans que on attende les catastrophes. Aux États-Unis, il y a un truc très étonnant. Moi, je travaille beaucoup avec le MIT, encore une très bonne équipe sur le changement climatique. Et donc, moi, je passe à peu près 2 mois par an avec eux. Et j'ai une équipe du MIT qui passe 3 mois par an à peu près chez avec nous à Paris. Bon. Donc, on suit beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que le phénomène Bush est complètement dépassé aux États-Unis. Il y a eu une prise de conscience majeure sur le changement climatique. Et qu'est-ce qui a été le catalyseur? C'est Katrina. Alors que tous les climatologues vont vous dire que on n'est pas très sûr que l'intensité des ouragans et leur fréquence sont... Mais pour la ménagère de l'Arkansas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je considère que le changement climatique est une vraie question pour les États-Unis? C'est Katrina. Et ce n'est pas toutes les images d'inondations, etc., qu'on présente. Donc je crois que ça, c'est important. Donc au fond, puisqu'on parle du futur, quoi, le futur, c'est bien évidemment, il faut cette capacité de mobilisation, mais finalement, le futur, ça va être quoi? Ça va être que les impacts du changement climatique vont nous faire prendre conscience des réactions que nous devons avoir, et que plus on a une capacité d'anticipation sur ces impacts, plus on fera des choix, je pense, rationnels et qui minimisent le coût humain, le coût économique, le coût écologique. Et moins on a cette capacité d'anticipation, et bien plus on va aller dans un futur où il faudra attendre d'avoir des impacts extrêmement violents, des guerres, des réfugiés climatiques. Parce que je disais qu'il ne faut pas faire de catastrophisme, donc je ne vais pas en faire, mais il est assez facile de montrer des choses. Je prends un exemple très concret. Moi, j'ai travaillé 4 ans en Algérie dans le secteur agricole. L'extension de la désertification est un truc qui vraiment m'obsède, si vous voulez. On est le Sahara, hein, se désertifie au sud, au nord, etc. Le problème du Sahel, le problème du Darfour, est déjà amplifié par le changement climatique. On ne le dit jamais, ça, mais on sait que tous les modèles de changement climatique montrent que l'accroissement de la température moyenne s'accompagne d'un accroissement du stress hydrique dans ces régions qui séparent l'Afrique tropicale humide du Sahara et de la Méditerranée. Tous les modèles climatiques montrent que le changement climatique va accroître le stress hydrique dans tout le pourtour méditerranéen. Donc c'est déjà là, si vous voulez. Et je crois que la question, la mobilisation qu'il faut avoir aujourd'hui, je pense, c'est pas uniquement de dire que en achetant le dernier modèle de voiture, on va contribuer au changement climatique. C'est de dire aujourd'hui que dans les grands enjeux, parfois les plus violents qu'on voit dans certaines parties du monde, déjà le changement climatique a un impact. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire.
Bien, on peut peut-être prendre quelques questions de la salle et.
Ha ha ha. Non, mais si on n'est pas capable de dire ce qu'on a à dire. J'aimerais revenir sur catastrophe, puisque j'ai failli vous couper quand vous avez prononcé ce mot. Et après, j'aimerais revenir sur ce que Bernard Cazès avait dit à propos de la mémoire et puis le futur. Catastrophe, il y en a marre avec les catastrophes, parce que catastrophe, si on prend le mot grec, quoi, c'est la dernière strophe. Donc, peut-être que l'humanité se trompe totalement. Tout est fait, tout est accompli, quoi. Le mal est fait. Maintenant, il suffit de tourner la page. Donc, arrêtons de croire à la catastrophe et osons croire à autre chose, à l'incroyable. Et c'est là que l'humanité a des problèmes. Elle a des problèmes avec la gestion de l'incroyable. Parce que, à mon avis, là, je reviens à mémoire et futur, elle se concentre en ce moment sur la mémoire, elle fait des tas de mémoriels et partout, bon, enfin, il faut se souvenir de tas de catastrophes, justement, au lieu d'oser imaginer quelque chose d'incroyable. Alors, c'est tout, il n'y a plus la place pour, quoi. On ne peut pas faire deux choses en même temps. On ne peut pas, chez moi, on disait, on ne peut pas avoir enfin, bon, je ne sais pas comment, en français, c'est pas pareil. Le problème des langues, enfin, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, voilà, c'est ça. Il faut faire des choix à un moment, donc soit on veut la catastrophe, bon, et on la veut vraiment, ou alors on accepte de tourner la page, d'arriver à cette fin et à oser autre chose, donc à oser l'incroyable. Et là, je crois, il y a un problème avec la foi. La foi qui est un instrument de travail et pas ce qu'en ont fait les religions ou par exemple les banques. Bon, c'est un instrument pour asservir soit l'argent de quelqu'un ou alors l'esprit de quelqu'un. La foi, c'est quelque chose qu'on peut changer justement, où on peut tourner les pages et oser croire l'incroyable. Alors j'aimerais bien venir par exemple à cette histoire de CO2. Les plantes, par exemple, grâce à la chlorophylle, bon, elles fabriquent soit du CO2 la nuit, soit de l'oxygène le jour. Et moi, je me demande si l'humanité, elle n'est pas en train de fabriquer du CO2 en ce moment, parce qu'elle est à l'ombre de la catastrophe, c'est-à-dire à l'ombre de ce qui est noir, quoi. Il faut qu'elle aille à la lumière, et pour ça, il faut se mettre en route, il faut marcher, il faut se lever. Bon, pour moi, il faut devenir immortel, en fait, parce que justement, c'est pareil. Non, mais au niveau de la sexualité, on s'est trompé depuis les dinosaures, à mon avis. Ben oui, on utilise le corps pour mourir alors qu'il est là pour oser croire l'incroyable que nous n'osons pas.
Je ne sais pas, vous voulez réagir à ce programme de
Bernard?
Oui, non, moi je voulais réagir sur excusez-moi, la menace terroriste et le sida, c'est pas exactement votre sujet. Si, c'est tout. Ah bon. Mais voilà. Bon, alors donc.
Allez-y, j'aurais des choses à vous dire.
Bon. Ouf. Alors attendez que je m'y retrouve. Ah, voilà. Alors donc le texte introductif à notre séance ajoute à sa liste. À sa liste des sources d'inquiétude, la menace terroriste et le sida. Et j'ai envie d'ajouter à ce couple un tiers élément, à savoir la crise des subprimes. Et je vais essayer de justifier ce rajout par deux arguments. Premièrement, l'impact macroéconomique des attentats du 11 septembre a été finalement négligeable, alors que celui des subprimes sur l'économie réelle va se révéler considérable et mettre à mal la croissance économique des pays occidentaux et même de la Chine, il faut le faire. En second lieu, les pays peu développés, alors ça c'est mon deuxième argument, les pays peu développés n'ont cessé de souligner le contraste entre la relative facilité avec laquelle les milliards destinés à remettre en marche le système financier international ont été mobilisés, et le mal qu'ont les pays riches à tenir les engagements qu'ils ont proclamés pour des montants nettement inférieurs au bénéfice des pays pauvres qui se trouvent être particulièrement frappés par le sida. Donc, c'est là-dessus que je terminerai, il sera particulièrement intéressant, à mon avis, de suivre le déroulement du sommet de New York qu'a consenti à organiser le président Bush, qui est chargé de la refonte des institutions de Bretton Woods. Si, par miracle, ce sommet parvient à définir une architecture suffisamment robuste pour mettre durablement l'économie réelle à l'abri des dérèglements de l'économie financière, il me semble qu'il faudrait décerner aux participants de ce sommet collectivement le prochain prix Nobel de l'économie, en excluant bien sûr tous ceux qui auront essayé d'entraver la naissance de ce nouveau système. Et je crois que là, c'est un prix Nobel d'économie qui serait fortement utile. Voilà.
J'aurais une question, monsieur Deartus. L'économie est basée sur un mot qui est la confiance. C'est-à-dire, moi, j'ai confiance que je puisse faire mon travail, que je puisse développer un produit à vendre, que j'ai un partenaire qui pourrait travailler avec moi, un banquier qui pourrait me financer et que le marché soit durable pour un certain temps. Donc, la confiance est basée aussi sur la monnaie des pays. Et quand on regarde ce que ça a évaporé en 87, c'était le total du budget d'État de la France et du Canada ensemble. Enron, International Communication Company, World Communication Company, et on ne sait pas encore combien de milliards se sont évaporés, mais on sait déjà que la comptabilité était truquée par le groupe Anderson, et de là à conclure que toutes les comptabilités de toutes les sociétés américaines sont truquées, c'est un petit pas. Et maintenant, on nous voit un trou de 2000 milliards d'euros, et sans parler des American State Bonds, les reconnaissances de dette qui dorment dans les sous-sols de la Banque de Chine et du Japon. Donc, alors, confiance. Moi, je n'ai plus de confiance ni dans la monnaie américaine, ni dans l'économie américaine, ni dans la société américaine, ni dans leur politique. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas carrément dire on va isoler les États-Unis, on va leur dire on n'en a plus confiance, vous êtes des voleurs de poules, on va faire notre propre monnaie mondiale, un gouvernement, pas un gouvernement, mais plutôt économique, comme une espèce de FMI international sans les États-Unis, et on va vous reparler dans 100 ans.
Oui, ben. On peut peut-être quand même espérer que les États-Unis changent, non ? C'est le. Je voulais le. Ça paraît quand même difficile de faire un système économique international complètement qui entoure les États-Unis et qui contourne. Me paraît potentiellement encore plus dangereux et plus dur que de faire un système économique dans lequel on imagine que les États-Unis changent, si vous voulez. Donc moi, je crois que les États-Unis, ils ont montré dans le passé que, et dans leur histoire, qu'ils étaient quand même souvent capables de changer. Donc, je pense que plutôt comme ça que j'imagine le futur. Bon. Par ailleurs, il n'y a pas que les États-Unis qui ont fait des bêtises sur les subprimes et sur la titrisation et ces choses-là. Je veux dire, je pense que les États-Unis ont eu. C'est un peu comme le climat, finalement. Hein. C'est responsabilité partagée mais différenciée. C'est-à-dire que le mirage de la financiarisation à outrance, on l'a vécu en Europe aussi. On voit bien qu'en Europe, on a. Par exemple, si vous regardez des trucs très concrets, la façon dont une partie des droits à la retraite, qui autrefois était garantie par des autorités publiques et graduellement mangée par la finance. Tout ça est un phénomène international. Donc, je pense que c'est pas uniquement c'est quand même les institutions qu'il faut bouger. Et je pense que les États-Unis, c'est probablement aujourd'hui l'économie qui a le plus besoin, si vous voulez, qui aura. Donc, je pense pas qu'on puisse faire sans eux, si vous voulez. Par ailleurs, je voulais dire, je suis d'accord avec vous, qu'il faut, il faut pas faire de catastrophisme, il faut imaginer l'inimaginable aujourd'hui. Enfin, ça, je suis complètement d'accord. Mais imaginer l'inimaginable, ça ne veut pas dire non plus
se réfugier dans des images. Moi, je crois que la reconstruction des mécanismes économiques est très importante pour faire les choses aussi.
Oui, mais ça veut.
Non.
Il y a quand même une mesure extrêmement pratique qu'on pourrait prendre pour aller dans votre sens, et on ne la voit pas tellement se mettre en œuvre. C'est-à-dire que s'il s'agit d'imaginer ce qu'on ne peut pas encore imaginer aujourd'hui, c'est bien du côté de la recherche scientifique qu'on va le trouver, à mon sens, beaucoup plus que de la foi. Donc pour ça, ça nécessite des moyens financiers. À ce jour, depuis qu'on a pris conscience de tout ça, je n'ai pas le sentiment qu'on ait vu tellement les budgets de la recherche fondamentale en particulier, augmenter dans nos pays. Ça ne semble pas être devenu soudainement une priorité majeure. Au contraire, écoutons ce que nous disent les chercheurs depuis quelques années et leurs inquiétudes.
Oui, ben, ceci dit, je pense que ça commence à changer. Je pense que si vous regardez ce qui se fait sur la recherche fondamentale aux États-Unis dans les grands programmes, il y a 10 ans, on faisait que du numérique. Il y a un redémarrage des programmes à une échelle assez significative sur des questions énergétiques. Et alors, sur le lien entre recherche fondamentale et développement, vous avez une vraie impulsion aujourd'hui sur des
énergies. Là, je faisais référence à la France et je pense qu'on ne se sortira pas de cette question du climat uniquement en donnant de l'argent aux climatologues. C'est-à-dire que ce que je veux dire, si on sacrifie par exemple les sciences humaines et sociales, comme on est en train de le faire aujourd'hui, on risque d'aller au-devant de problèmes importants.
Oui, je suis assez d'accord, mais bon.
Une dernière question peut-être ? On ne vous voit pas du tout, c'est très. Je sais pas, c'est déjà la couche d'ozone qui a rétréci.
Oui, je souscris quand vous parlez. Vous appuyez sur François Hartog pour dire le présentisme. La force des habitudes, c'est quelque chose qui est très très important. Chez l'être humain. Moi, je suis très surpris de ne pas avoir entendu le mot de lobby prononcé. On dirait que vous faites comme si ça n'existait pas. Il y a une seule ministre qui a dénoncé la force des lobbies en France récemment, c'est Dominique Voynet. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ?
Si, bien sûr que les lobbies existent. Et bien sûr que les lobbies énergétiques sont extrêmement importants. Et la façon dont il faut faire avec les lobbies, me semble-t-il, est double. La première, c'est que une fois que vous avez mis dans les règles économiques des systèmes suffisamment contraignants pour pouvoir mettre du prix à l'environnement, même si les lobbies sont puissants, ils sont forcés de modifier leur comportement. Quelque chose qu'on commence à voir, par exemple, en Europe, je pense en France, c'est pas un lobby très important, mais si vous regardez en Allemagne, en Italie, les lobbies des compagnies électriques qui exploitent du charbon, si vous voyez, sont en train de modifier leur comportement parce que les règles économiques sont en train de changer. Le deuxième point, qui est évident, c'est que il y a encore là un problème de régulation publique, un problème de régulation politique. On a besoin d'autorités publiques qui mettent des limites. Qui mettent des limites à quoi ? Qui mettent des limites à la concentration économique, qui mettent des limites au pouvoir de marché sur certains marchés. Bon, aujourd'hui, on voit bien que les marchés énergétiques, comme le marché des grandes industries énergétivores, effectivement, dans des structures qui sont économiques, qui sont favorables à l'émergence des lobbies. Donc là, je dirais, c'est un peu la même histoire que les subprimes. C'est une histoire d'une certaine forme de démission des autorités publiques.
Bien, mais je vous remercie. Je vous annonce qu'à partir de 18h45, il y a une nouvelle table ronde sur la science et le futur de l'homme.
Oui, on va faire une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour cette dernière table ronde.